Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Pour cette semaine spéciale de France Culture consacrée à l'élection américaine, Les Pieds sur Terre accueille depuis lundi et jusqu'à demain Looking for Kermit, un podcast d'Anne Lamotte. Anne Lamotte est journaliste à la rédaction de France Culture et elle s'est envolée pour le Texas à la recherche de Kermit Oliver, un monsieur un peu spécial, à la fois légendaire et obscur. Au tout début des années 70, il est le premier artiste noir à exposer ses tableaux dans une grande galerie à Houston. Rapidement, il devient célèbre pour ses peintures figuratives qui représentent souvent des animaux, des cochons, des coqs, des chevaux. Ses œuvres s'achètent aujourd'hui très cher dans les salles des ventes et la marque de luxe Hermès lui commande même des dessins pour décorer ses foulards. Mais Kermit Oliver est aussi un mystère. Il vit reclus dans une vieille maison à Waco, une petite ville au sud de Dallas où il ne reçoit quasiment personne. On ne sait pas grand-chose de lui, à part qu'il est descendant d'esclaves, fils de cow-boy, et qu'il a longtemps exercé le métier de postier. Alors Anne Lamotte est partie sur ses traces, essayer de comprendre qui est vraiment ce mystérieux personnage et ce que sa vie peu ordinaire raconte de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. C'est jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre, Vieux Démon, un troisième épisode de Looking for Kermit, Back to the Roots, Alléluia, une jeunesse noire chez les cow-boys.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
My name is Early. The last name is Hudnall. H-U-D-N-A-L-L.
Is this one in Houston as well?
No, Haiti.
Haiti. Mm-hmm.
Photographs, 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 photographs.
Early Hudnall est un photographe réputé à Houston, negatives, dont le studio croule negatives, sous les piles de clichés.
Negatives, negatives, no, negatives. Fine prints.
En 1968, il prend des cours de dessin à la Texas Southern University à Houston et son professeur s'appelle Kermit Oliver, le peintre postier qui ne s'arrête jamais et dont la rigueur impressionne.
Il ressemblait à un gladiateur. Il savait exactement comment s'attaquer à la toile. Elle devenait sa proie. Il savait exactement ce qu'il allait en faire et ce que ça donnerait à la fin. C'était Kermit.
S'attaquer à la toile, enfin plutôt au support que l'artiste a devant lui. Car, souvenez-vous, Kermit Oliver ne peint pas sur de la toile qu'on peut rouler, mais sur des panneaux de bois, notamment. Et je n'imaginais pas le boulot que cela représente. Un article daté de 1974, publié dans le magazine Southwest Art, fait la liste des étapes qu'il s'impose. Passer du gesso, un enduit spécial, sur la surface. Répéter l'opération 12 fois, toutes les 3 couches, polir avec du papier de verre. Puis, diviser la longueur en 4, la largeur en 3, tracer des diagonales. Et dans la grille, placer ses sujets suivant la règle du nombre d'or que Léonard de Vinci utilise déjà au XVe siècle, pour le plus d'harmonie possible. Alors, seulement quand l'esquisse est la plus détaillée possible, cela peut lui prendre des semaines, Kermit passe à la couleur, toujours de l'acrylique, dilué et appliqué en fines couches, 1, 2, 5, voire 12, captivant pour Early, rare témoin de la chose.
It was almost like,
je dirais que
I would say a computerized image appeared.
C'était presque comme si une image conçue par ordinateur apparaissait.
If you look at an inkjet printer today, comparing to Kermit.
On peut comparer Kermit à une imprimante à jet d'encre. Tu t'assois dans un coin, tu ne dis rien, tu regardes et il y a une image qui surgit.
Oh, it was almost like photography to a degree.
Un peu comme en photographie.
You see the image develop.
Tu vois l'image se développer.
Boom, 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 boom. And then the detail began to just emerge.
les détails émergeaient. C'était juste magnifique de pouvoir observer ça, vraiment.
Et il finit toujours par signer Oliver en tout petit, comme s'il n'existait pas. Il se cache, là encore, dans son œuvre comme dans sa vie.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Faite d'humilité, d'éthique et d'ordre.
Kermit never abandoned his roots.
Il n'a jamais abandonné ses racines, me confie Early.
Allez hop, c'est parti.
Des racines poussées dans la poussière qu'il me faut à présent aller chercher. À 300 km, plus au sud et plus à l'ouest de Houston, cette énorme machine où Kermit a passé près de 25 ans et qu'il n'a jamais dessiné. Pas un échangeur, pas un gratte-ciel, comme s'il ne l'avait jamais regardé. Prendre la Highway 59, descendre le long du golfe du Mexique, sentir la température monter.
Il y a des pélicans.
Et se souvenir de ce que Alvia Wardlow, la petite dame professeure d'histoire de l'art, m'a raconté du pays de Kermit.
You know, you see all those uninterrupted ranch lands.
On voit ces champs interminables.
The cattle and the,
le bétail.
The oil wells.
Les puits de pétrole.
It's that picture of Texas that people have.
C'est le Texas comme on se l'imagine.
You know?
Vous voyez?
Elle a raison. Tout y est. Elle oublie juste les petites églises blanches le long de la route et le son de la radio, plein de country et de prêcheurs.
And every church, as well as every home, need to be guarded by love, inspired by love, enhanced by love, transformed by love, blessed by love, and disciplined by love.
Ma destination, une toute petite ville. Ne cligne pas des yeux sur la route, tu risques de la rater, m'a-t-on dit. Refugio, le refuge. 3000 habitants. C'est ici que Kermit Oliver est né, dans la chaleur étouffante du 14 août 1943. Une succession de petites maisons basses posées sur du gazon, certaines abandonnées, d'autres encore amochées par l'ouragan Harvey passé ici il y a 3 ans. Des porches en bois, des chaises à bascule, des tracteurs, des pick-up. De vieux drapeaux américains élimés. Et au milieu de tout ça, une petite maison en lambris rose. Celle où Kermit vit à l'époque, avec ses parents et ses 3 frères.
La clé marche, donc il devrait y avoir quelqu'un. Elle marche et elle fuit. Si c'est habité. Je sais pas.
À quelques mètres de là, je tombe alors sur un homme, sur son perron, devant une toile, pinceau à la main.
Yeah.
Il se trouve qu'il ressemble un peu à Kermit Oliver.
Yeah, you know.
Mais Kermit ne porterait jamais de chemise ouverte.
I'm Jackie Kay, Jackie Wayne Kay.
Confirmation, ce n'est pas lui.
Jackie Kay, and you're Kermit's
cousin.
Mais un cousin.
Jackie Kay, this is where I come to get my quiet and my relax.
Peinard, à peindre un coin de verdure qu'il a repéré pas loin. Ce n'est pas vilain, mais lui-même le reconnaît. On est très loin du niveau des œuvres du cousin.
Oh man, God bless. They are badass.
Béni soient ces peintures. Elles déchirent.
Man, he's a wild. I knew he was good when he sold that one painting for $80,000.
En fait, j'ai compris qu'il était bon le jour où il a vendu un tableau pour $80,000.
Damn.
Je me suis dit merde.
And that was like 10 or 15 years.
Et c'était il y a 10 ou 15 ans.
$80,000 for a painting.
$80,000 pour un tableau.
Wow. I seen one of his paintings.
Un jour, quand je travaillais à Corpus, j'en avais vu un.
Je bossais pour un docteur, on est allé chercher quelque chose à manger, on est passé par une banque. Et il m'a dit, retourne-toi. Je me suis retourné, et sur un mur, il y avait une immense peinture qui représentait un cow-boy sur son cheval. Je l'ai reconnu tout de suite. J'ai dit, c'est son père. Il peignait tout le temps son père. Son père était cow-boy.
Je me souviens alors d'avoir déjà vu un cow-boy peint par Kermit quelque part.
He is so typical of early Texas.
Dans le salon de Shelby Marcus à Dallas.
He's a working cowboy.
Ce cow-boy aux étriers en cuir, au long par-dessus et au trait tiré. C'est donc le père de Kermit, KJ Oliver. Cow-boy noir donc, dans les années 1940 à Refugio, Texas. Et ce n'est pas le premier cow-boy de la famille Oliver. Non, le premier, c'est Jim Oliver, l'arrière-grand-père de Kermit, dont l'itinéraire traverse trois États du Sud. Né en Virginie en 1841, c'est dans le Missouri qu'il est vendu aux enchères, comme esclave, pour 1 400 $, semble-t-il. Puis, amené au Texas par son propriétaire blanc. Et c'est là, probablement dans les années 1880, dans les immenses plaines du Sud, où des tas de vaches sauvages sont à capturer, que Jim Oliver devient cow-boy pour un des nombreux ranchs du coin, dont beaucoup appartiennent à des familles irlandaises, les O'Connor, McFadden ou McAllen. Les cow-boys de Refugio et alentour sont alors quasiment tous noirs.
Most of them were black.
C'est Laurie Bellows, mémoire vivante de la ville, livre d'histoire à l'appui, qui m'explique.
The issue was from Mexico. That's where the big issue was from.
Le gros problème, c'était le Mexique.
Le Mexique qui perd le Texas en 1836.
Once the white and the Irish
Quand les Blancs
came in,
les Irlandais sont arrivés ici et ont fait valoir leur titre de propriété, les terres étaient déjà habitées par des Mexicains,
you know,
par des Hispaniques,
like their land had been stolen from them,
qui ont eu l'impression qu'on les volait. Donc il y a eu beaucoup d'accrochages.
And there were skirmishes and there were like division.
De disputes, de bagarres.
Dans leur ranch, les patrons blancs, qui ont besoin de main-d'œuvre, font alors appel à la population qui n'a rien à réclamer.
Les Noirs étaient les employés préférés parce qu'ils n'avaient jamais possédé de terre, ils n'avaient jamais rien possédé du tout. Ils étaient très fidèles et c'était des super cow-boys.
L'arrière-grand-père de Kermit est un de ses premiers cow-boys. Son grand-père, puis son père, choisissent le même métier.
You know, it was a family affair.
Dangereux et difficile. Attraper les bêtes au lasso, les mener par centaines dans des paysages sans fin, les castrer, les vacciner, les marquer au fer, récolter du foin ou réparer des clôtures, en évitant les coups de corne, de sabots, les épines, les piqûres de moustiques ou les morsures de serpents. Et de jour comme de nuit, ne pas compter ses heures.
Ils étaient mariés à leur patron et à leur ranch, disponibles pour n'importe quelle tâche, 24 heures sur 24.
L'abnégation de père en fils. Dans les archives du minuscule musée de Refugio, Laurie Bellows me déniche alors une lettre, écrite un jour, il n'y a pas de date, par KJ, le père de Kermit. J'y apprends que son cheval, qui est en fait une vieille mule, celle des peintures, s'appelle Old Demon, vieux démon.
Mon fils, Kermit Oliver, c'est un artiste. Il m'a tellement entendu parler de cette mule qu'il l'a dessinée. Et c'est exactement nous. Il me l'a envoyée pour la fête des pères. Peut-être qu'un de ces jours, moi et vieux démon, on finira au Cowboy Hall of Fame.
Combien de fois l'artiste a-t-il peint ce duo, qui n'a rien des clichés des westerns d'Hollywood? Non, c'est du vécu, du vrai, dans ce coin encore sauvage, que Laurie Bellows et son mari Dewey me proposent alors de découvrir. Dans leur voiture, ils montent avec des litres de thé glacé et un Colt 45. On ne sait jamais, d'après eux.
Well, I don't know if anybody did that.
We have every gun in the world. Semi-automatics, automatic, shotguns, bird guns.
Mais c'est finalement sans avoir à dégainer que nous arrivons dans un des grands ranchs de la ville. Les O'Connor, une des familles pour lesquelles le père de Kermit a travaillé.
Hello.
Hello.
Sauf que ce jour-là, dans les enclos, autour des baraquements, pas un éperon, pas un cheval en vue. D'après Laurie, ils sont sûrement à des centaines de kilomètres d'ici, à rassembler leurs troupeaux à l'aide d'hélicoptères. Mais on reste tout de même un moment à se balader. Le domaine est immense, la prairie verte, pleine de palmiers, de grands chênes, d'acacias, de magnolias. Il y a des fleurs roses et bleues, des vaches avachies à l'ombre, un troupeau de biches, un âne, des papillons, des libellules. C'est quasiment un tableau de Kermit Oliver qui bouge. Mais aussi certains de ces carrés dessinés pour Hermès. Comme celui que Laurie, de retour chez elle, me sort de sa penderie.
This is our world. This is our world.
Ça, c'est notre monde.
What we see every day.
C'est ce qu'on voit tous les jours.
Absolutely.
C'est exactement ça.
Sur le foulard, c'est un vrai zoo.
Dewey, you better come in there. These are egrets.
Alors ça, ce sont des grues.
This is an owl.
Là, il y a une chouette.
These are longhorn bulls.
Des taureaux à grandes cornes.
This is an armadillo.
Un tatou.
That's a mountain lion.
Là, il y a un puma.
These are alligators.
Des alligators. On n'a pas de crocodiles ici. Il y en a seulement en Floride.
This is a raccoon.
Un raton laveur.
A rattlesnake.
Et un serpent à sonnette.
South Texas rattlesnake.
Le serpent à sonnette du sud du Texas.
Bref, le bestiaire de l'enfance de Kermit Oliver. Observé il y a 70 ans, ici, au fin fond du Texas, imprimé sur les carrés de soie d'une maison de luxe à Paris.
Oh, right, South Texas, exactly.
Direct du sud du Texas, exactement.
Yes, this is one.
C'est vraiment un de mes foulards préférés.
One of my very favorite scarves.
Un genre de jardin d'Éden, d'après Laurie, pour qui Refugio, le refuge, porte si bien son nom. La preuve aussi avec cet album qu'elle me tend.
And in high school from Refugio, Texas.
L'album du lycée de la ville, daté de 1960, l'année où Kermit Oliver obtient l'équivalent de son bac.
That's Kermit.
Dans le trombinoscope, le voilà.
In 1960.
À 16 ans, en diplômé, chapeau carré sur la tête,
baseball,
l'air toujours aussi sage.
Basketball for black.
Mais le plus intéressant dans cet ouvrage, ce sont les photos de classe. Car nous sommes en 1960, en pleine ségrégation dans les États du Sud. Et pourtant, sur les clichés, autour de Kermit, tout le monde est mélangé.
La chose la plus surprenante que j'ai découverte au cours de mes recherches, c'est qu'il avait eu la chance d'aller dans une école qui n'appliquait pas la ségrégation.
Cette voix, c'est celle d'Alvia Wardlow, notre professeure d'histoire de l'art. En 2005, alors qu'elle dirige la rétrospective dédiée à Kermit Oliver au Musée des Beaux-Arts de Houston, elle plonge dans le passé de l'artiste. Ils sont de la même génération. Et elle apprend que dès 1954, dès l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les écoles publiques, le lycée de Refugio se met à la page. Et ça l'abasourdit.
Because all the schools, in big cities,
parce que dans toutes les écoles des grandes villes du Texas,
definitely segregated.
Vraiment, c'était la ségrégation.
I went to segregated schools here from
moi, à Houston,
elementary school through high school.
Je suis allée dans des écoles pour noirs, de la primaire au lycée.
Le Texas de Refugio et des alentours est un Texas différent, méconnu, me dit Alvia.
Je pense que le fait qu'ils aillent à l'école tous ensemble,
remarkable.
Ce qui est remarquable, juste remarkable, ça a donné à Kermit une sorte
way,
de
a kind of freedom.
Liberté.
You know, there was just time to kind of be.
Il avait juste le temps de vivre.
It's kind of like,
vous savez, c'est un peu comme, enfin, là, c'est moi qui interprète, mais
you know how Obama was?
Vous vous souvenez d'Obama?
Because he grew up in Hawaii.
Et du fait qu'il ait grandi à Hawaï.
I think that's how Kermit was.
Eh bien, je pense
you
que
know,
pour Kermit,
because he had had this
ça a été la même chose.
Space.
Enfant, il a eu cet espace dans lequel il pouvait être lui-même, vivre, tout simplement. Pour Obama, ça a été Hawaï. Pour Kermit, ça a été Refugio.
Quelques mois après que ces photos soient prises, Kermit Oliver entre à l'université noire de TSU à Houston. Je comprends mieux alors pourquoi il a du mal à s'engager dans le mouvement des droits civiques. Ça a été un choc, me confirme Alvia. Dans le catalogue de sa rétrospective de 2005 à Houston, l'artiste a cette phrase qui résume tout. « En vérité, je ne me suis pas mise à crier des slogans qui proclamaient que nous étions beaux, car ça ne m'était jamais venu à l'idée que nous ne l'étions pas. »
I changed colors. I was brown first. My name was Mary Brown and I married a man green.
Ces rires, ce sont ceux de Verna Jones et Mary Green, vieilles copines qui ont grandi ici dans les années 40 et qui s'amusent encore des bêtises de Kermit et de ses copains. Ils chipent des oranges chez le voisin, risquent au drive-in, s'amusent à la carabine. Il paraît même que Kermit est un très bon tireur, capable de loin de viser et de craquer une allumette. À écouter et à regarder ces deux femmes, c'est une enfance très heureuse. Mais il faut bosser aussi.
Ça, c'est sûr. On n'avait pas de boulot en dehors de la maison, mais on avait du boulot à la maison. On avait nos corvées et il fallait les faire avant toute chose.
Et dans la maison rose des Oliver, ça file droit. Catherine, mère au foyer, inculque la discipline et le goût du travail bien fait à ses quatre fils qui enchaînent les tâches ménagères. Prendre soin du potager et des animaux, les vaches, les moutons, les poulets et les cochons qui ne sont pas seulement dans les champs alentours, mais à la maison et qu'il faut nourrir, soigner et qui, à l'occasion, servent de modèle à Kermit.
Il faisait des croquis tout le temps. Il avait ça en lui. On savait qu'il allait devenir artiste, c'était sûr.
Il avait toujours un bout de papier sur lui pour dessiner, même quand on était dehors en train de jouer. Il avait toujours du papier avec lui. Il s'asseyait à l'écart et il dessinait. C'était son truc. Je me souviens que sa grand-mère, Miss Catherine, nous a dit un jour qu'il avait commencé à peindre vers l'âge de 3 ans.
Ainsi, pendant 17 ans, à Refugio, Kermit Oliver aiguise l'œil et la main de l'artiste qu'il allait devenir. Il prend aussi conscience, très tôt, que rien ne dure. Car ces animaux, il faut les abattre, les tremper dans l'eau bouillante avant d'ôter leurs poils ou leurs plumes. Un rituel qui marque profondément Kermit, qui peint aussi un tas de bêtes mortes. Souvenez-vous de ce cochon, le ventre fendu, pendu par les pattes dans la galerie de Jerry Hooks à Houston. Des animaux comme crucifiés, qu'il ne cesse de ressusciter, son arche de Noé à lui. Il faut dire qu'après celle de la Maison Rose et celle de l'école, il y a une troisième porte que le petit Kermit pousse très souvent à Refugio. C'est celle de l'église baptiste du Mont Pèlerin. Une petite église en bois.
Well, one thing about it, I can tell you one thing for sure. They were in the church all the time, just like we were.
Je vais vous dire une chose. Ils étaient à l'église tout le temps, comme nous.
All the time.
Ils y étaient tout le temps.
People talk about drug and children.
Il paraît que les jeunes d'aujourd'hui se droguent.
Well, we were drugged because we were drugged to church all the time.
Ben, nous, on était drogués à l'église.
À Refugio, 3000 habitants, je compte pas moins de 10 églises. Nous sommes ici à la frontière de ce qu'on appelle la Bible Belt, la ceinture de la Bible, à deux pas de Mission Bay, la baie de la mission, et d'une grande ville nommée Corpus Christi. La famille Oliver est très religieuse. La mère enseigne la Bible, le père est diacre, et l'œuvre de Kermit tout entière, imprégnée de spiritualité.
Même quand il peint ses propres enfants, il ressemble à des anges. Dans cette toute petite église perdue du sud du Texas, où Kermit a passé tant de temps, Barbara Martin, une des fidèles, m'annonce alors qu'elle a quelque chose à me montrer. Elle monte sur l'autel, où un grand rideau est tiré, un peu comme au théâtre. Elle l'ouvre. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Il y a là un homme, nu, replié sur lui-même. De sa tête pousse un arc-en-ciel, de son dos un arbre, sur lequel vient se poser une colombe. Un immense tableau, signé Kermit Oliver. Et ce n'est pas tout. Suivez-moi, me demande Lily Sutton, la femme du pasteur. On passe derrière l'autel, dans une autre salle, où je découvre un grand Christ cloué sur la croix, une deuxième œuvre de Kermit. L'artiste utilise là les mêmes verts et gris glauques que pour sa fresque à l'université.
C'est sombre. Certaines de ses œuvres sont vraiment très sombres. C'est ce qu'il avait dans la tête.
Let's go closer.
Venez, rapprochons-nous.
I see the moon up there in the corner.
Il y a une lune dans le coin là. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Et j'aimerais tant savoir. Il y a forcément une explication.
It's a meaning.
Parce qu'il connaissait très bien les Saintes Écritures.
Knowledgeable of the scripture.
Ces deux œuvres, ces deux trésors cachés, c'est Kermit qui les offre à l'Église. Peut-être à la fin des années 60, début des années 70. Il n'en a jamais parlé à Jerry Hooks, la galeriste qui le représente depuis plus de 30 ans. Décidément, Kermit Oliver trace sa route qui ne ressemble à aucune autre. Qui aurait pu parier qu'un jour, elle croise celle du luxe parisien?
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day.
Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, à l'occasion de la semaine spéciale élection américaine, c'était le troisième épisode de Looking for Kermit, un podcast d'Anne Lamotte, journaliste à la rédaction de France Culture, avec une musique originale de Léo Poumet. Vous pouvez retrouver et podcaster cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.